On va pouvoir commencer. Aujourd'hui, c'est notre dernière soirée du séminaire école. Et donc, on va écouter Anne Lopez.
Ah bon?
C'est la surprise, je t'avais dit.
On ne savait pas jusqu'à maintenant qui commençait.
Voilà, je choisissais au dernier moment. Voilà. Et avec le titre de ton texte, Les occurrences d'un désir décidé. Et par la suite, Dominique Marin, avec le titre Naturellement analysant.
Alors, donc, deux points vont se demander. L'analysant qui occupe déjà la position de semblant de l'homme encore dans son expérience et qui s'offre comme analyste. Et le deuxième point, un ou des changements d'analyste dans l'expérience analytique en cours. Et j'essaierai d'en tirer quelques conséquences avec vous. Alors ces questions restent vives, changement d'analyste, et puis s'offrir comme analyste avant d'avoir fini sa cure. Parce que, effectivement, j'ai eu ça dans mon expérience et je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu ces mêmes situations. Je dois dire que j'ai été bien encombrée pour faire ce travail, puisque l'analyste, même non éclairé des suites de son expérience, est en fonction d'analyste. Il l'est de par sa place, pas dans son être, qui n'est pas être, mais objet semblant. Pourtant, l'expression « être-objet » existe, mais comme un oxymore, comme le clair-obscur. S'il le veut bien ultérieurement, il pourra s'éprouver dans la passe, ce passage d'analysant à analyste. Donc, il y a l'embrouille habituelle de ce qu'on ne peut pas être à la fois dans le même temps analysant et analyste. Et donc, en parler est difficile. C'est un dedans-dehors qui s'exclut et qui montre bien aussi la nécessité des références topologiques multiples que Lacan nous a proposées tout au long de son enseignement. Thor, bande de Mébus, huile intérieure, bouteille de plein, nœud borroméen, pour nous déniaiser de toute représentation simpliste de l'espace de la notion. Quelque chose qui se dit sans que le sujet s'y représente ni qu'il s'y dise. Cette référence est déjà dans l'acte psychanalytique dès les années 67-68. L'enfermement de la névrose, la glu qu'elle produit, nécessite les coupures multiples des séances, mais aussi les interprétations sur les équivoques sonores, grammaticales, pour que se découpe cette chute de A, là où était le sujet supposé savoir, A qui devient cause du désir. Ces questions montrent combien la formation analytique se fait dans et par l'expérience même et soulignent le tout pouvoir de l'analysant au travail de l'inconscient. À partir de ces points, se questionne l'éthique du côté analysant, mais aussi bien du côté analyste. Beaucoup d'entre nous, étant donné la longueur des temps des analyses, et ça n'est pas surprenant, ont commencé à recevoir bien avant le temps d'une certitude de fin d'analyse, certitude toujours à vérifier d'ailleurs, soit de par l'inscription sociale du métier pratiqué qui les y poussait, tout naturellement, et ce tout naturellement sera remis en cause par l'analyse, soit par un choix sans doute pas forcément éclairé, mais qui souligne un goût pour la psychanalyse, une décision, malgré leur orientation de vie professionnelle différente. Là, je crois qu'il y a un choix vraiment assez décisif. L'entrée en analyse de sujets qui travaillent dans des institutions de soins, comme toute entrée en analyse, doit marquer un seuil d'entrée. En effet, écouter à longueur de temps des patients peut donner le sentiment d'y connaître quelque chose, de comprendre l'autre, alors que ce que l'on sait d'une analyse avant l'analyse n'a pas grand rapport avec ce que l'on en éprouve dans l'expérience, ce pouvoir subversif de l'inconscient pour le sujet. Et parfois même des études dites psy font momentanément barrage au travail de l'inconscient. J'ai ajouté l'universitaire ou l'universitaire. Je ne saurais trop insister sur ce seuil d'entrée, qu'est-il? Colette Seller en a déjà parlé, mais insistons encore, il faut arriver à une certitude que la demande, recouverte par les demandes liées au malaise symptomatique du sujet, trouve à se localiser chez l'analyste, cette demande qui est celle de toujours, cette quête qui accroche le désir du sujet au désir de l'autre, quête du manque et de ce qui viendrait le combler. Lacan parle dans la direction de la cure de la demande inconditionnelle en ces termes. C'est une expression que je trouve forte. L'indicible de ce qui s'ignore dans sa requête. C'est la mise du sujet. Bien sûr, cela suppose parfois un dire de l'analyste qui opère sur un éclairage de la position subjective du sujet, la dite rectification subjective, ça je trouve ce terme un peu lourdin, mais enfin bon, mais qui n'est pas systématique et nécessaire à tout le monde. Certains arrivent avec des questions fondamentales sur qui suis-je, que faire, vivre ou mourir. L'analysant, s'il rencontre un analyste qui a chance de répondre à la demande inconditionnelle, justement de ne pas répondre, si ce n'est par l'accord, la place laissée au déroulement de la parole, lui permettra d'épuiser dans un long trajet l'insistance qui est la sienne. Contrairement à toute autre forme de discours, parental, magistral, politique, philosophique, aucune forme de réponse n'est donnée. Ce lien de l'analysant à l'analyste est un lien tout à fait particulier d'un non-rapport qui supprime l'intersubjectivité, puisque la soudure de ce lien se fait entre l'analysant et le couple analysant-analyste. C'est dans la conférence dite la troisième que Lacan apporte cette remarque. Comment saisir cela ? L'analyste est pris dans les rêves du fantasme de l'analysant et interprète, c'est-à-dire permet de démonter, de coupure en coupure à partir des signifiants produits, cette phrase qui représente le cadre de la réalité de l'analysant. L'analyste dérange et ne répond pas là où le fantasme le met. En somme, le sujet vient poser ses desiderata en début d'analyse dans les 10 entretiens préliminaires. En notant ce joli mot desiderata, je suis allée lire ce qu'il supposait de sens et l'évolution que ce mot a eue dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey. Avec le « de » privatif et le « sider » qui signifie « astre »,« étoile », le sens latin est « cesser de contempler l'astre ». Puis l'usage en a fait un constat d'absence, de lacune, avec une forte idée de regret, et s'est positivé comme « chercher à obtenir, souhaiter ». Ce que le névrosé demande, en quelque sorte, c'est la lune ou combler la lacune. Ce qui semble fondamental dans l'entrée en analyse, c'est de produire la discontinuité, la rupture avec ce que le sujet a toujours connu à partir des autres discours. Il faut finalement lui apprendre à se laisser dire, à s'entendre dire autrement, entre les dits, dans les équivoques où se recèlent les nœuds du langage jusqu'au hors-sens. Une analysante en quoi cette expression « je n'arrive pas à me dire » Comment l'analysant tout nouveau qui reçoit des patients met au travail celui qui vient parler ? Ce n'est pas forcément catastrophique, ça peut l'être. Puisque s'il est lui-même vraiment au travail, il a la fraîcheur d'entendre celui qui parle comme Freud le conseillait, sans un savoir antérieur, sans savoir cumuler. Pourtant, bien souvent, les premières questions sont « quand parler ? Quand se taire ? Comment conduire une cure ? Et comment l'orienter ?» Ne pas comprendre est sans doute une certaine garantie de saisie du signifiant. Et jusqu'à un certain point, s'offrir comme objet A peut paraître facile. J'y reviendrai. Ne faire que se taire ne permet pas une approche nécessaire dans le transfert du désir de sujet au désir de l'autre. Je vous fais part d'une anecdote qui montre la tactique de l'hystérique pour accrocher au dit désir de l'autre. L'analysant va régulièrement à ses séances, rien n'est dit, pas grand-chose ne se passe. Alors elle s'absente de plus en plus et paie avec un certain mépris les séances manquées. Devant son absence répétée, l'analyste ne dit mot et ne pose aucune question. Alors elle demande, un peu provocatrice, une troisième séance qui lui est refusée. Elle s'en va voir ailleurs et quitte le muet comme une carpe. Tout cela dans un cheminement inconscient et c'est dans l'analyse ultérieure qu'elle saisira ce qu'elle a mis en scène, sa propre tactique inconsciente. En somme, un début de cure qui n'en était pas, ce qui lui permet de trouver un analyste répondant quant au désir. On peut supposer d'ailleurs que pour cette personne, les entretiens préliminaires n'avaient pas permis une véritable élaboration de la demande. Je dirais qu'elle palpait la présence du désir de l'autre. Un petit souvenir personnel et inoubliable, celui de l'analyste qui deviendrait mien, me disant au tout début, finalement, vous n'allez pas si mal que cela. Choc surprenant qui m'a permis d'élaborer quelque peu la demande. Sinon, l'analyse ne fait pas que d'aller chez un analyste, encore faut-il que le gland puisse être relevé de la bonne façon. Recevoir, je ne vais pas partir. Recevoir des patients semble une pente naturelle pour les analysants dont le métier concerne le soin en général. Vouloir être analyste est parfois sous-entendu comme une évidence et pas encore questionné. Il s'agit là d'être analyste, ce qui ne peut se demander, puisqu'il s'agit de la production du A à cause du désir, qui est plutôt des êtres, qui est son être d'objet indicible, qui est produit. Et c'est là, je pense, que l'éthique de l'analyste doit pouvoir faire entendre qu'il y a lieu et de se hâter, et d'avoir une certaine exigence vers une nécessité de contrôle. Ça n'est pas exigible d'un tu dois où il faut, mais sans, dans certains cas, souligner la gravité de l'engagement d'occuper ce semblant d'objet pour un autre est requise. En disant cela, je pense à la dérobade de certains sujets hystériques, pour lesquels il suffit parfois d'avoir l'air, de s'en donner les airs. Mais très simplement, il me semble, bien que cela puisse paraître quelque peu magique, que le désir de l'analyste, s'il fonctionne pour l'analysant, ne lui laisse guère le choix de se refuser à un contrôle. Il va quand même, en général, là où l'analyste l'emmène. Alors ça, c'est une citation qu'a fait Anne-Marie Combre dans un entretien de Jacques Lacan avec Emilia Granzotto en 1974. Dans la grande majorité des cas, c'est plutôt l'angoisse rencontrée dans la pratique qui pousse à s'y mettre à fond. L'angoisse, certes, n'est pas confortable, mais si elle ne paralyse pas, elle reste un aiguillon pour le désir. Qu'est-ce qui ne contrevient pas à prendre cette position de semblant de A? En somme, on a déjà été l'objet de l'autre, et la pente naturelle est de continuer à occuper cette place que l'on n'a pas quittée tant que l'analyse n'est pas achevée. Alors évidemment, il y a le risque que ce A ne soit pas que du semblant, et que l'analysant, analyste, rejoue, répète sa partie, au détriment de l'expérience de son patient. Il peut arriver ainsi que se mette en scène un remake du parent traumatique en la personne de l'analyste. En fait, cela n'est pas fréquent, bien heureusement. Ce serait alors masochisme et sadisme, une modalité pulsionnelle de faire croire à l'existence de rapports sexuels. Ce qui me semble important pour que cette position prise d'analyste permette une efficacité de la mise en route de l'inconscient est qu'il sache qu'il ne sait pas. En somme, une ignorance ouverte au savoir. Lui-même sait quelques petites choses, ne sait pas, pas encore pour lui-même, et d'ailleurs il ne saura pas tout, jamais tout, de l'inconscient, et ne sait pas pour l'autre ce qui lui est bon. Pas de bien donné, pas de conseil éclairé. Cela suppose d'ébranler beaucoup d'a priori et d'idées reçues quant aux pseudo-certitudes de choix de vie. D'ailleurs, le contrôle peut servir à cela aussi, à défaire les idées toutes faites. Par exemple, l'attente d'un analyse, de l'analyste pour un patient ou patient de la rencontre de l'âme sœur. Surtout actuellement, où s'étale en plein feu des médias l'ouverture de jouissances multiples autorisées. Le contrôle est un travail à deux, où s'échangent, s'affrontent, outre les questions diagnostiques, l'orientation et la visée de la cure. D'ailleurs, le contrôle peut parfois produire un transfert tel qu'il peut y avoir un changement d'analyste. L'important est que l'analysant sache qu'il ne sait pas et cherche à savoir. L'ignorance à ses degrés, de la crasse à la docte, c'est-à-dire d'une ignorance qui ne sait pas même qu'elle ne sait pas, à une ignorance qui se sait ne pas savoir. L'analysant est donc à la tâche de savoir, dans le déchiffrage de la liberté fictive de l'association libre, et signifiant premier qui le représente. On peut dire que les sillons de jouissance sont au travail du déchiffrage de l'inconscient, et si la mise est à fond, c'est-à-dire s'il est pris, saisi par ce travail, sa jouissance est tenue et canalisée par les rails de ce travail et sera moins un but à se répandre dans sa position d'analyste. Lacan, dans le séminaire sur l'acte, parle de retrouver l'inconscient, qui n'est possible qu'en y mettant toute la gomme, parce que la fonction de l'inconscient est d'effacer le sujet. En somme, il n'y a pas de choix si l'on veut exercer la psychanalyse, même si rien n'y est joué quant à la fin. Il y a immersion totale dans le travail de l'inconscient et non dégustation timorée. C'est une aliénation aux effets du langage qui, pour faire jouer et sortir la cause de la division, ne peut être timide, ne peut pas seulement être grignotée du bout des lèvres. J'ai parlé jusqu'à maintenant du début du travail de l'analysant s'offrant comme analyste avec le cas du cabinet à établir, les nombres de séances, paiement et des séances à l'absence, ce qui n'est pas toujours facile par les temps qui courent d'obtenir ça, hein, le paiement des séances d'absence. Mais en général, on finit par y arriver. Mais pour les débutants, un jeune analyste, c'est pas simple. Enfin, un jeune analysant analyste, c'est pas simple du tout. Mais l'analysant, heureusement dans sa cure, franchit des étapes qui ont quelques conséquences sur sa pratique analytique. Par exemple, ce moment crucial où il réalise en défaisant lui-même les cures de ses identifications qu'il n'y a pas de trait identificatoire à porter au compte de ce qui ferait un analyste. Il y a parfois devant cette difficulté une sorte de mimétisme, un leurre à reproduire ce qu'on a connu. Je me souviens dans l'école de la cause de certains où l'habit pouvait faire le moine, dans une espèce de miroir où les atours suffisaient à s'y croire, analyste. Je pense d'ailleurs que la pensée unique d'un chef pousse à produire entre les égaux, alors vous pouvez l'écrire EGAUX ou EGO, des phénomènes identificatoires. Ce mimétisme peut aller loin, et s'en garder est important, parce qu'avant d'avoir beaucoup d'expérience, on a tendance à reproduire ce que l'on a connu, alors que chaque analysant diffère. Soi-même d'ailleurs, avant de trouver le naturel de son style, peut s'entendre reprendre quelques onomatopées ou tons de voix propres à son analyste. Il faut du temps pour s'y faire à ne pas s'identifier, à ne pas imiter, à être naturel, sans se pousser du col, et à trouver son style, le style propre à chacun, qui a certainement quelques affinités avec la différence absolue à obtenir en fin d'expérience. Alors, vers une fin. C'est d'ailleurs dans le séminaire 11 que Lacan parle du plan d'identification à franchir, le transfert ramenant la demande à l'identification. Et c'est en ce point, en se tenant dans l'X du désir, que l'analyste pourra se faire déchoir de ce point d'idéal où le mettait l'analysant. C'est à ce moment, peut-on penser, que la découverte du bonhomme et de la bonne femme qu'est le psychanalyste deviendra un homme ou une femme assez ordinaire, bien qu'ayant eu la nécessaire ténacité du désir. Mais il n'est pas le seul à avoir un désir décidé, voir le chercheur, l'artiste, et certains hommes politiques, mais là c'est le pouvoir qui les mène, qui n'est pas du domaine du psychanalyste, son seul pouvoir étant inclus dans le transfert que lui octroie l'analysant. Alors, j'aborderai un autre point dans ce passage de l'expérience de l'analysant en ce moment difficile, qui est passage vers devenir analyste. Je citerai Lacan dans l'éthique de la psychanalyse. La terminaison de l'analyse, la véritable, j'entends celle qui prépare à devenir analyste, ne doit-elle pas, à son terme, affronter celui qui l'a subi à la réalité de la condition humaine, soit atteindre et connaître le champ du désarroi absolu, l'île flossie, guide, je ne suis pas très douée là-dedans, l'angoisse devant le vide de l'autre. C'est dans les séminaires éthiques. Ce moment de destitution subjective est coupure par rapport à la signification, est suspension des mouvements, un hors-temps, comme l'objet A, sans âge. C'est d'ailleurs ce qui fait lecture après coup de l'âge de l'analyste. Pendant très longtemps, j'ai pensé mon analyste pour un beaucoup plus vieux que moi, et ai réalisé en fin de parcours que nous n'avions que quelques années de différence. Ce moment de destitution et la réduction du sujet à l'objet du désir de l'autre, du désir comme désir de l'autre, et Lacan d'ajouter dans cette même page sujet qui se prend pour un jeu. Colette Solaire avait eu cette expression que j'aime bien, zone de turbulence, qui montre l'humeur maniaco-dépressive et ouvre la voie vers l'inconnu. C'est ce moment qui peut faire ressentir un éprouvé d'étrangeté devant cette extimité, sa propre jouissance étrangère non identifiée. Ce moment d'ailleurs, l'envoi surmonté, m'apparaît comme une possibilité de désigner passeur cet analysant dans ce moment clinique. C'est un moment... Alors... Et je pense que c'est à partir de ce passage obligé, en tant qu'analyste s'il le devient, qu'il pourra se sentir frère de l'analysant, comme étant du même côté, sujet de l'effet de langage, cause introduite dans le sujet, produit d'après coup, comme tout un chacun. Ce qui me semble relativiser relativiser toute fatuité ou suffisance. C'est un moment d'effet castration pour le sujet. Castration de la vérité, de la garantie inexistante, du non-rapport sexuel, décranté par symptômes et fantasmes. Alors, maintenant, j'aborde un petit peu l'autre question, celle de changement d'analyste. Je l'ai un peu abordée au tout début. Ce qui finalement, je pense, doit être assez fréquent, ces changements d'analyste, ce choix tâtonnant de la première rencontre. Ce qui m'avait interpellée, c'était le témoignage d'une de nos AE. Les AE, l'excuse de dire non possessif. Sur 3 changements d'analyste, dont le dernier changement était motivé par les avancées théoriques de l'analyste choisi. J'avais été surprise. Puis je me suis souvenue, à l'école de la cause, il y a de nombreuses années, d'une véritable épidémie de changement d'analyste vers un psychanalyste qui avait eu plusieurs analysants nommés AE. On voit donc l'importance et l'effet de la théorie et aussi bien de l'enseignement. L'avancée, s'il s'agit d'avancer, des concepts travaillés par les psychanalystes, produit des mouvements de transfert. Je ne peux pas d'ailleurs conclure que ces mouvements à l'école de la cause ne seraient que mode, effet de prégnance, des signifiants ou concepts enseignés. À cette époque, bien accroché au transfert, je n'étais pas en mesure de lire s'il y avait ou non un réel débat valable de positionnement par rapport à un point théorique précis. Il faut être prudent et donc lire le trajet d'un sujet pour savoir si mode, engouement, il y a. Et bien sûr, cela ne peut se faire qu'à plusieurs, dans une procédure bien particulière, celle de la passe. Ces changements d'analyste supposent de toute façon le tout pouvoir de l'analysant et la manière dont il localise, pourrait-on dire, le sujet supposé savoir, qui est formation de veines, comme dit Lacan, de veines, des veines, chance, mais qui ne peut se maîtriser par quiconque et qui n'implique pas toujours d'ailleurs l'office à l'analyste. Je n'aborde pas les effets de la mort réelle de son analyste ayant aucune expérience sur ce sujet. Je suppose bien sûr que lorsque ça arrive, lorsque ce réel choix sur l'analysant, les effets et les difficultés ne sont pas les mêmes et peuvent se redoubler parfois de deuil non élaboré dans le temps du psychanalysant. Mais on sait que le signifiant mort, qui n'est pas la mort, joue sa partie même dans le transfert. Lacan en parle au moment où il cerne ce qui se joue dans les phénomènes d'aliénation et séparation. Le sujet, tel gribouille, nous dit Lacan, gribouille c'est celui qui se jette à l'eau par crainte de la pluie, là où gît le manque de l'autre, propose au désir parental celui de sa propre disparition. Le fantasme de sa mort, dit Lacan, de sa propre disparition, est le premier objet que le sujet a à mettre en jeu dans cette dialectique. Comme le sujet le fera également dans le souhait de mort d'un de ses parents. Ce qui peut se lire dans le transfert comme incluant ou non le vital pour le sujet dans l'accroche à l'analyse. Une patiente me disait, après 2 autres analystes longuement rencontrés, on m'aurait annoncé leur mort, l'un comme l'autre, ça ne m'aurait été chaud ni froid. Vous n'avez pas intérêt à me lâcher. Crûment dit, les mensonges du transfert nécessaire envers une mère qui ne l'a pas désiré a fait une profonde dépression à la naissance de la patiente. Par sa stratégie, l'analysante a reconquis la mère, ou plutôt, se l'est-elle mise dans la poche, vouant le père à la haine et au mépris. L'analyste est prévenu. Ces accents de vie et de mort montrent bien que la psychanalyse se joue sur un échiquier de risque vital pour beaucoup de sujets. Et la psychanalyse absolutise les questions. Il me semble que de toute façon, l'analysant au désir décidé fera une analyse, avec vous ou un autre, quitte à quitter son analyse, qui dès leur choix, mais sans avoir mal. Se laisser tomber fait partie de sa fonction. Pourtant, il lui revient d'essayer d'y saisir quelques petites choses. Est-ce un acte, un passage à l'acte, un acting out? Là, chacun se laisse questionner, parfois sans réponse, l'acte ne se lisant qu'après coup. C'est parfois, mais on n'essaie pas toujours, un « ça suffit, je vais bien », dont l'analyse peut suffire, mais peut-être pas forcément lorsque l'analysant reçoit comme analyste. Quant à l'analysant qui exerce comme analyste, lorsqu'il change d'analyse dans un parcours déjà bien avancé, on peut supposer qu'un transfert s'est constitué ailleurs, chez un autre analyste, en fonction de son enseignement ou d'affinité plus affine pour le sujet en question. Dans le travail d'AE dont je parlais, qui m'avait surpris, ce n'était pas tant le changement d'analyste que la poursuite de l'analyse après le servage du fantasme. Quelque chose pour cette personne, pour ce sujet, est de gênant, insistait donc suffisamment. Quelque chose pris dans le corps, une sorte de réel dernier, insistant, jusqu'à la mise en forme de la lettre du symptôme. C'est donc dans l'insistance et la mise au travail méticuleux des signifiants que peut s'attraper, se saisir, quelques bribes d'inconscient réel. De toute façon, le fantasme même cerné, il y a nécessité d'une perlaboration du trajet à partir de S de Grand Tabaret. Alors, après avoir fait ce travail, je mesurais combien la psychanalyse produit l'analyste sur le tas. C'est pas très joli comme expérience, mais j'ai pas trouvé autrement. Sur le vif du travail de l'inconscient. Il n'y a pas d'autre didacticien que l'expérience de l'analyse, mais pas dans le solipsisme, en croisement avec les échanges multiples d'autres analysants au travail. Cette nécessité d'échange, de croisement, est la seule petite garantie que nous ayons de ne pas oublier sa propre horreur de savoir, et j'ajoute sa propre horreur de l'acte. Mais peut-on les faire s'équivaloir? C'est une question. Nous n'avons pas toujours la possibilité de mesurer les effets de nos propres analyses comme analystes, les effets de la psychanalyse. Ce travail échangé autour des passes, des enseignements de nos AE, de l'école, rend vivant la psychanalyse et participe au progrès de tous ceux pour qui la psychanalyse est à chérir dans ces temps mouvants et changeants.